Bonsoir Eva Bettan.
Bonsoir.
Jeudi confession. J'aime beaucoup le jeudi. D'abord parce que c'est jeudi et aussi parce que c'est le jour de votre carte blanche avec ce soir Jean-Claude Carrière.
Le 8 novembre, Jean-Claude Carrière recevra son Oscar d'honneur à Los Angeles. C'est un homme multiple, il est écrivain, il est homme de théâtre, il est adaptateur. Mais c'est là comme scénariste qu'il va être récompensé. Et il y a de quoi. Buñuel, beaucoup, Belle de jour, Le charme discret de la bourgeoisie, Vajda, Danton, Rapto, Cyrano de Bergerac, Schlondorf, Le tambour.
On va prendre à Bergerac.
Bergerac, donc Schlondorf, c'est le tambour. Donc il va aller chercher son Oscar, mais on lui dit comme ça, une phrase en passant, la phrase bête que vous dites sans y penser. Et qu'est-ce que vous allez faire avant ça? Et il vous répond, eh bien, je vais faire un petit tour sur la côte américaine et puis je vais raconter le Mahabharata. Pardon, on parle bien du Mahabharata, du grand poème épique de l'Inde ancienne, très très ancienne, si bien qu'on ne peut pas le dater, aux Américains. Oui, c'est ce qu'il va faire et il va le raconter. Donc, il l'avait déjà, récapitulons, adapté au théâtre pour Peter Brook. Il l'avait déjà adapté l'adaptation au cinéma faite par Peter Brook, qui elle était de 5 heures. Et là, il tente une troisième chose. Les autres étaient 9h05. Là, il tente une sorte de haïku, j'ai envie de dire, un conte sur seulement 2 heures.
Ça s'appelle une obsession quand même.
Justement, il récuse le terme. Donc, rencontre avec Marathon Man, nous sommes chez lui. La chatte est rétive, lui est accueillant. Racontez-nous comment on raconte.
Je suis pieds nus et j'ai un vêtement indien, très simple. Je garde ma barbe, j'ai un gros bâton, parce que le bâton, qui est un outil qui sert beaucoup en Inde au conteur, peut se transformer. Il peut être un aviron, il peut être un arc, il peut être une massue, il peut être beaucoup de choses. Et puis, il y a des scènes que je joue, où je joue les différents personnages, les hommes, les femmes, etc. Vous voyez ? Mais en tout cas, au début, il y avait un homme qui s'appelait Vyasa et qui disait « J'ai composé le plus grand poème du monde ».
Alors, donnez-moi un exemple que je comprenne. Une scène que vous jouez, où vous jouez plusieurs personnages.
Un homme qui s'appelle Arjuna et qui vit avec ses 4 frères, ils habitent chez leur mère qui s'appelle Kunti. Ils sont 20-25 ans, ils sont costauds, ils sont fils de Dieu, des demi-dieux. Un jour, Arjuna gagne une femme très très belle, Draupadi, dans un tournoi. Il revient à la maison et sa mère, qui s'appelle Kunti, lui tourne le dos et est en train de faire la cuisine. Et Arjuna lui dit « Mère, regarde ce que j'ai gagné ». Et sans se retourner, Kunti lui dit « Tu partageras avec tes frères. » Mais, lui dit Arjuna, mais c'est une femme. Kunti se retourne, voit Draupadi et « Qu'est-ce que j'ai dit ?»« Tu as dit « Tu partageras avec tes frères. » Et alors Kunti très sérieusement dit « Un mensonge ne peut jamais passer à travers mes lèvres. Ce n'est pas pour rien que j'ai dit ça. Le destin s'est glissé dans ma voix par surprise. Vous devez l'épouser tous les 5. » Et en effet, tous les 5 frères épousent Draupadi. Pendant toute leur vie, elle va leur donner un fils à chacun. Ils auront chacun 5 ou 6 semaines à passer avec elle. Ils se partagent le temps. Donc voilà une scène que l'on peut presque jouer, vous voyez. C'est une scène qui en Inde est très connue parce que les 5 frères représentent les 5 doigts de la main et Draupadi, la pomme qui les unit. Cette femme va être leur force.
Alors, la voix de Jean-Claude Carrière est envoûtante. On a envie d'être d'accord avec lui. Mais quand même, être la femme mariée à 5 frères, pour nous, c'est affreux dans une vision occidentale.
Pour vous, c'est affreux, mais pas. Ça dépend d'elle. Ce sont 2 femmes qui en décident. Donc, nous n'avons pas à prendre leur place. Le Mahabharata est fait justement pour nous écarter de nos conceptions morales traditionnelles, occidentales. C'est un poème qui fait appel à d'autres dimensions et à d'autres traditions. Donc c'est de ça aussi qu'il faut parler. Oui. Nous, l'Occident ne détient pas la vérité.
Alors justement, c'est une autre vérité. Donc est-ce que dès le début, vous dites quelle est l'essence, quelle est la philosophie? Est-ce que vous faites un résumé avant de commencer? Parce que c'est gigantesque.
Il y a un thème central dans le Mahabharata, et je crois que c'est pour ça que ça touche aujourd'hui de très très près. Dans les toutes premières scènes, Krishna arrive et dit... J'ai entendu la terre se plaindre. Et qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, je suis écrasé par les pas de trop d'hommes arrogants. Et je me demande demain qu'est-ce qu'ils vont encore me faire. Donc tout vient de cette inquiétude et même de cette alarme de la terre qui se voit piétinée, malmenée, outragée, exploitée et qui se demande si elle va pouvoir tenir le coup. Donc la question est, pouvons-nous sauver la terre? Je veux dire, elle est quand même... prodigieusement d'actualité.
Jean-Claude Carrière ne veut pas du mot obsession, non, c'est plutôt un compagnonnage. Un compagnonnage sur une demi-vie quasiment, sur 40 ans. Il a commencé en 1974.
J'ai vu un vieux prof de sanskrit indien de Bombay qui m'a dit, et ça c'est une des phrases qui m'a le plus touché de ma vie, il est venu vers moi aux États-Unis et il m'a dit, vous savez, quand j'enseigne le Mahabharata à mes élèves à Bombay, c'est votre texte que j'utilise. Ça.
Les Indiens vous connaissent comme quelqu'un connaissant le Mahabharata?
Je suis Mr. Mahabharata. Oui, je passe au journal de 20 heures, si vous voulez. Oui.
Est-ce que vous êtes rendu compte après coup, que je ne sais pas, que vous travaillez avec un tel ou un tel metteur en scène et que le Mahabharata, il y a quelque chose qui vous a servi?
Oui, absolument. Et je m'en suis rendu compte en écrivant La controverse de Valladolid. Je me suis rendu compte qu'il y avait là quelque chose qui touchait au plus profond de nos craintes, de nos hantises, de ce qui fait que nous sommes des créatures effarées, toujours menacées de mort, toujours menacées de vieillir, toujours inquiètes, que la peur fait partie de nous.
Est-ce que vous pouviez vous douter, dans votre enfance, que vous passeriez tant d'années de votre vie sur le Mahabharata, que vous feriez tout ce que vous avez fait?
Non, pas du tout. Mais il y a une anecdote qui est vraie, que j'ai racontée au Dalai Lama, et ça l'a beaucoup amusé. Moi, je suis un petit paysan d'origine, d'une famille tout à fait modeste du Midi, où il n'y avait pas un livre et pas une image dans ma maison. Mais quand j'ai eu, je pense, 6 ou 7 ans, je ne m'en souvenais pas, c'est ma mère qui me l'a raconté plus tard. Elle m'a demandé « qu'est-ce que tu veux qu'on mette dans la crèche cette année ?» Et je lui ai répondu « un Bouddha ». Alors, naturellement, elle ne savait pas du tout ce que c'était qu'un Bouddha. Moi-même le savais, j'avais probablement lu ce mot dans un recueil de contes et légendes de l'Inde. D'abord, elle est allée voir le curé. Il lui a dit « oh oui, je crois que oui, ça, je crois que c'est un philosophe chinois ». Bon, un prince indien, mais peu importe. Et alors, elle est allée dans la ville voisine Bédarieux, elle a acheté un gros Bouddha en plâtre, grand comme ça, c'est-à-dire de 30 ou 40 cm de haut, que nous avons placé dans la crèche pour Noël. Mais il était tellement plus gros que les santons qu'il semblait tout écrasé. C'était un extraterrestre qui avait atterri là, vous voyez. Quand les voisins venaient, on l'enlevait. Et ce Bouddha, je l'ai gardé. Chaque fois que je vais chez moi, il est en face de moi. Je frotte ma tête contre la sienne et nous sommes toujours très amis.
Alors, ces archives occupent toute une pièce, mais c'est dans sa maison du sud de la France, à Paris. Il y a quelques signes, juste une sorte de gravure sur bois qui est derrière lui, qui représente une bataille, qui figure dans le Mahabharata. Puis on insiste, on lui dit « il n'y a pas autre chose ». Il nous dit « venez, on va descendre l'escalier, Ganesh nous attend ».
Mais pour la radio...
Pour la radio, oui.
Écoutez, je peux vous montrer... Il faut descendre.
Oui, oui.
Je peux vous montrer la tête qui nous a servi dans le spectacle authentique de Ganesha. Ganesha, c'est ce dieu à tête d'éléphant, très très populaire en Inde, allez-y, qui est le scribe du Mahabharata. Non pas l'auteur, mais l'auteur ne sait pas écrire. Et c'est Ganesha, scribe céleste, qui vient et qui l'écrit sous sa dictée.
À droite, voilà.
Là, voilà, là-bas, vous voyez.
Ah oui, d'accord.
Là, voilà, alors je l'ai accroché là avec le linge rouge qu'il a. Et il domine un peu la maison. En plus, Ganesh, comme il a écrit concrètement le Mahabharata, il est le dieu des écrivains. Donc, je le vénère chaque fois que je passe là. Il est le dieu des écrivains, des commerçants et des voleurs.
Parfait. Voilà, c'était notre petite
promenade.
Oh non,
ça comme ça.
Mais oui, comme ça, avec Ganesh, c'est bien.
Moi.
Le dieu des voleurs, c'est pas bien?
Ah bah oui, c'est super. Voilà, la chronique d'Eva Bétan, tout simplement. La semaine prochaine, vous savez déjà, Eva?
Oui, mais je vous le dirai pas, vous découvrirez.
D'accord. Oh bah, avec plaisir. Merci d'être là tous les jeudis.